Radio Kapi.
Oh, Kapi. À la présentation, Believe en Lutumba.
En début de ce journal, c'est cette mise au point du porte-parole du gouvernement au sujet du déroulement de l'enquête à la suite de l'assassinat des chérubins au Kende. La justice travaille pour apporter toute la lumière sur ce crime. Vous le suivez tout de suite en ouverture de ce journal. Nouvelle alignée aussi dans cette édition, c'est cet encadrement des plus ou moins 500 écoliers déplacés dans le site des déplacés des Kayembe dans le Nord Kivu. Y suivent des cours préparatoires dans le cadre de Anna Mikeli, un projet éducation et de la réponse des l'USAID. Papi Aungoezi, économiste et enseignant à l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, à Beni, intervient en fin de ce journal comme invité. L'entretien avec Radio Kapi porte sur la fluctuation du taux de change dollar américain franc-congolais sur le marché. Ensemble, découvrons tout de suite les autres contours de l'actualité de ce mardi 18 juillet en RDC. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Le principe d'une enquête pluridisciplinaire ouverte aux experts étant déjà levé, il faut laisser les services habilités faire leur travail. C'est en substance ce qu'a déclaré le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya en rapport avec l'enquête sur la mort du député national Chérubin Okende. Dans une interview exclusive à Radio Kapi, où il répondait à la question de savoir où en serait-on avec l'enquête, le porte-parole du gouvernement a souligné le fait qu'il existerait des laboratoires qui seraient derrière cet assassinat odieux pour créer de la psychose au sein de la population kinoise. Et de ce fait, la justice travaille pour faire toute la lumière, a-t-il déclaré. On écoute Patrick Muyaya au micro de Jacques Moliman.
L'enquête a commencé d'ailleurs dès le jour de la découverte de son corps. La police criminelle a commencé à travailler et je pense que les éléments ont été versés au parquet qui s'occupe de l'instruction du dossier, le parquet qui travaille avec l'auditorat militaire, mais aussi avec tout le service de l'État, parce que le Premier ministre, vous vous souviendrez, qu'au terme de la réunion de crise qu'il a présidée avec tout le service, avait lancé l'idée de cette enquête pluridisciplinaire, et donc tous les services de l'État sont mobilisés. Pour cette fin, le président de la République, au cours du Conseil de ministres de vendredi, a fait part de son échange à ce sujet, notamment avec le Premier ministre belge. Et donc, ma collègue de la justice a saisi les autorités belges qui devraient, dans les jours qui viennent, déléguer des experts qui se joindront à l'équipe congolaise qui est en train de faire les enquêtes pour faire toute la lumière sur cet odieux assassinat. Et le moment venu, donc, le parquet pourra communiquer sur le premier élément de l'enquête suivant les différentes informations qu'il recueille.
Toujours concernant l'affaire Okende, Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, s'est rendu ce mardi à l'ambassade du Royaume-Uni en RDC, où il a échangé directement avec les ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. C'est pour solliciter leur participation aux enquêtes visant à faire la lumière sur l'assassinat des chérubins Okende. Les assassins et commanditaires du meurtre des chérubins doivent être démasqués, a-t-il déclaré après son échange ce jour avec les ambassadeurs. Il a par la suite rencontré l'ambassadeur de France pour la même requête. Restons ici à Kinshasa pour parler de la situation du franc congolais. Le ministre des Finances vient d'annoncer plusieurs mesures urgentes pour stabiliser les francs congolais. Parmi ces mesures, le gouvernement va privilégier le paiement des impôts en francs congolais. Nicolas Kazadi l'a déclaré lors de la conférence de presse lundi 17 juillet, tenue conjointement avec son collègue Patrick Muyaya des médias et porte-parole du gouvernement. L'objectif de ces mesures est de réduire la demande en devises pour privilégier la demande en francs. D'autres détails avec Daniel Tambinzoni.
C'est au cours de la conférence hebdomadaire qu'organise le ministre des médias et porte-parole du gouvernement que le gouvernement a annoncé les mesures urgentes pour stabiliser le franc congolais sur le marché de change. Parmi ces mesures, la Banque centrale du Congo commence à intervenir sur le marché de change. Ces interventions vont se poursuivre pour rétablir la situation, a indiqué le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Pour accroître l'utilité du franc congolais, le gouvernement va privilégier le paiement des impôts en franc congolais. Cela devrait permettre d'accroître la demande en fonds. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo va désormais surveiller la qualité des dépenses publiques et renforcer le suivi des plans de trésorerie. Nous allons proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale du Congo. Nous allons réduire les sorties d'espèces, a poursuivi le ministre des Finances. Sur le plan de la politique monétaire, la Banque centrale du Congo va réguler le flux en francs congolais à travers son taux directeur et opérer le changement sur la politique de ses réserves.
Dans la province du Kwilu, les enseignants du secteur public de la division provinciale de l'EPST Kwilu 2, basée dans la ville de Kikwit, s'insurgent contre le non-respect des promesses faites l'année dernière par le gouvernement congolais en leur faveur. Ces professionnels de la CRE ont manifesté leurs regrets quant à ce. C'était lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée lundi par l'intersyndicale à l'Epengango à Kikwit pour évaluer les activités scolaires de l'année qui vient de s'achever. À l'occasion, ils ont présenté leurs revendications, notamment la mécanisation des enseignants, nouvelles unités, surtout ceux du primaire et de maternelle, et aussi le réajustement de la prime de gratuité. Benoît Kassiama est le président de l'intersyndicale des enseignants du Kwilu 2. Il est joint par Irène Boma.
Les enseignants ont déploré le non-respect des promesses faites par le gouvernement. Rien n'a été fait. Alors, parmi les revendications, nous avons le réajustement de la prime de la gratuité, la prise en charge de 670 enseignants nouvelles unités maternelles, 5535 enseignants nouvelles unités du niveau primaire, surtout pour l'enseignement maternel et primaire, comme c'est la gratuité. Garder les nouvelles unités dans ces écoles-là, c'est total détruisent l'enseignement parce qu'ils n'ont que leur salaire. Mais si on leur prive le salaire et on dit il y a gratuité, nous pensons que c'est vraiment dire une chose et son contraire à la fois. La prise en charge de 6 000 enseignants nouvelles unités du niveau secondaire. Il y a la prise en charge de 2200 inspecteurs de l'édition 2018. Au cas où cette revendication ne peut pas trouver de solution, ça serait provoquer les enseignants à saboter la rentrée scolaire 2023-2024.
Dans le Nord Kivu, au moins 500 écoliers déplacés suivent des cours préparatoires dans le site déplacé de Kayembe. Ce site est situé non loin de l'aéroport international de Goma, dans la chefferie de Munigi, en territoire de Nyiragongo. Ce projet d'urgence pour l'éducation des enfants déplacés s'inscrit dans le cadre du projet d'éducation et de la réponse des USAID. Ce programme du gouvernement est mis en œuvre par l'ONG Anna Mikeli pour un tutorat de 2 mois. Bernadine Diambou a rendu visite à ses enfants. Elle nous en dit plus dans ce reportage.
Là, nous sommes dans l'une des salles de classe à l'EPKMB. Ces enfants déplacés, garçons et filles, sont encadrés par un enseignant de l'école primaire. Ils apprennent le français, la lecture, l'écriture et la mathématique. Monsieur Hubert, chargé de l'éducation à l'ONG Anna Mukeli, nous en parle ici.
Nous sommes avec les enfants tous les jours, c'est-à-dire du lundi à vendredi. Nous sommes en train de les préparer non seulement pour lecture, écriture et mathématiques. Nous avons aussi des programmes sociaux et pour les déstresser, les amener à être dans l'environnement scolaire.
Bien que satisfait de cette initiative, ces enfants qui viennent de différents points du territoire de Rutshuru et celui de Nyiragongo en fuyant la guerre éprouvent d'énormes difficultés. Ils apprennent dans des conditions précaires, nous dit ici ses responsables enseignants Jean-Dédié Tiza.
Ce sont les enfants qui mangent difficilement, qui n'ont pas de matériel didactique assez suffisant. Peut-être le gouvernement puisse aussi encourager ou des gens qui reviennent aussi en aide.
À noter que les parents des enfants déplacés ne jurent que si le rétablissement de la paix dans leurs milieux respectifs, afin que leurs enfants qui n'ont pas étudié toute l'année dernière puissent affronter les activités scolaires de l'année prochaine 2023-2024. Goma, Bernardine Diambo, Radio Kapi.
Nous parlons encore des enfants. En Ituri, plus d'une centaine d'enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil dans la chefferie de Walendu Bindi, dans le territoire d'Irumu. C'est le résultat de l'enquête effectuée par le service de la protection civile dans cette entité. Dans son rapport publié ce mardi, cette structure attribue cette situation à la pénurie il y a environ 6 mois des registres d'actes de naissance. Elle plaide pour une intervention urgente pour éviter que ces enfants ne soient des apatrides. Explication de Martial Kizabiamungu.
D'après les services de la protection civile à Ituri, plusieurs parents défilent chaque jour au bureau du préposé de l'état civil de la chefferie de Walendu Bindi à Geti pour enregistrer leurs enfants, mais sans y parvenir. Les proposés se limitent juste à l'inscription du nom de chaque enfant dans un petit cahier. Une pratique observée depuis plus de 5 mois, rapporte la protection civile. Ce qui constitue, ajoute-t-elle, une violation de la loi en la matière, laquelle stipule que chaque enfant doit être enregistré à l'état civil civile dans un délai de 90 jours après naissance. Robert Djalonga, coordonnateur provincial de la protection civile à Ituri, lance un cri d'alarme.
La crête, après les 90 jours, on procède par un jugement supplétif.
Le chef de la chefferie de Walendu Bindi indique qu'il a déjà mené sans succès des démarches à la division provinciale de l'intérieur à Bounia pour obtenir des registres d'actes de naissance. Il demande à son tour une intervention des autorités pour remettre ses enfants dans leur droit fondamental.
Le plaidoyer en est que de ravitailler tellement ces registres-là.
Entre-temps, des parents éprouvent des difficultés financières pour obtenir des jugements supplétifs de leurs enfants qui ont déjà dépassé les délais de déclaration fixés par la loi. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, reprise ce lundi à Moineditou des travaux de lutte anti-érosive sur deux têtes de ravin qui tentent de couper en deux la voie ferrée qui mène vers la gare ferroviaire. Ces travaux ont été suspendus depuis quelques mois après l'épuisement de 30% des fonds comme première tranche du financement du coût global. Le temps pour la reprise des travaux a été donné par le président du conseil d'administration de l'office des voiries et drainage OVD, Martin Chipama, en séjour à Moineditou. La population se dit satisfaite pour la reprise de ces travaux. Explication de Esther Dalafina.
Le ravin Capmou et Saint-Martin dans la commune de Moussadi constituent un danger permanent pour les populations résidentes dans les quartiers Kassanza, Ditou Ilunga et pour la voie ferrée qui passe par la ville ferroviaire de Moineditou. Le ravin Capmou progresse jusqu'à moins de 150 mètres de la gare de Moineditou et risque de détruire les infrastructures ferroviaires. Tandis que le ravin Saint-Martin tente quant à lui de couper en deux le chemin de fer qui mène vers la gare. Un éboulement a été enregistré à cet endroit au début de l'année, faisant un bilan d'un mort et quelques blessés graves. Dans sa progression vers le chemin de fer, ce ravin a emporté plusieurs maisons sur l'avenue Kinshasa. C'est depuis quelques mois que les travaux amorcés sur ces deux têtes de ravin ont été suspendus par manque de moyens, affirme le président du conseil d'administration de l'office des voiries et drainage. Martin Chipama signale par ailleurs que le FONER a déjà autorisé le décaissement de 70% des fonds restants pour que les travaux arrivent à terme. Il a demandé à la population de veiller sur l'état d'avancement des travaux. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Discours de haine en période électorale, c'est le thème principal d'une conférence organisée ce mardi à Kinshasa par le groupe de presse NextCop à travers son média actualité.cd. C'était dans le cadre de la présentation de son projet de lutte contre ce nouveau danger qui tend à fissurer davantage la nation congolaise. Face à la prolifération des discours de haine, notamment sur les plateformes numériques en cette période, le professeur Kitumu Maimona, expert en communication numérique et l'un des intervenants, appelle les journalistes à la responsabilité et l'État congolais sanctionner les auteurs de ces discours. On l'écoute au micro de Grace Hamzati.
Par discours haineux ou discours de haine, il y a tout ce propos qui tend à une forme d'incitation, qui tend au rejet, hein, que ce soit communautaire ou politique. Et le danger, c'est les conséquences que cela peut entraîner. J'ai, au cours de mon exposé, relevé quelques discours d'autrefois qui, finalement, ont abouti à des génocides, à la stigmatisation, au rejet de certaines communautés. Donc, le danger, c'est que dans les discours, il y a une forme de construction qui s'est faite, une construction d'opinion, des stéréotypes, qui, petit à petit, créent des intentions, et ce sont des intentions très souvent malveillantes, qui causent des affrontements entre tribus, des affrontements entre communautés. Alors, le que faire revient juste à la sanction. La sanction d'abord au niveau de la plateforme. Il faut signaler à la plateforme pour que le poste soit supprimé et même le compte aussi. Et deuxièmement, la sanction judiciaire. Donc, il faut aller vers le cour et tribunaux et porter plainte.
Actualité internationale.
Après la ratification d'une loi anti-gay en Ouganda, l'attention s'est rapidement portée sur le Kenya où un projet de loi similaire avec une nomenclature différente a récemment été soumis à l'examen du Parlement. La campagne anti-LGBTQ est menée par le député de l'opposition Georges-Peter Kalouna qui s'est rendu sur Twitter en avril dernier pour informer le monde qu'il avait présenté un projet de loi visant à criminaliser les activités LGBTQ dans son pays. Le projet de loi sur la protection de la famille a été présenté 2 mois après que la Cour suprême du Kenya a statué que les groupes LGBTQ étaient libres de former les associations de leur choix dans le pays. Et puis 8 personnes sont mortes lundi au Caire dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans le quartier de Adayek Al-Kouba, selon un communiqué du bureau de procureur général de la Sûreté de l'État. Plusieurs témoins affirment que l'effondrement a été causé par un résident qui a récemment abattu des murs dans son appartement au premier étage, malgré la réticence de ses voisins.
L'invité.
Notre invité est Papi Angoezi. Il est économiste et enseignant à l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, à Beni. Avec lui, nous allons parler de la fluctuation du taux d'échange dollar américain franc congolais sur le marché et des conséquences qui en découlent. En quelques jours, le taux d'échange est passé de 2100 à environ 2600 francs congolais. Papi Angoezi s'entretient avec André Kitenge.
Papi Angoezi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment expliquez-vous la fluctuation actuelle du taux d'échange dollar américain franc congolais sur le marché? La population n'y comprend plus rien. De 2100, ce taux est aujourd'hui d'environ 2600 francs congolais pour un dollar américain.
Alors, pour répondre à cette question, je crois que l'explication la plus simple, c'est la faible production nationale. Alors, comment l'expliquer? C'est que aujourd'hui, notre production nationale est faible. Ce qui crée un gap pour combler cette faiblesse de production, c'est l'importation des biens et services. Rappelez-vous, nous importons presque tout, jusque même au Kirda. On ne les produit pas localement. Alors, à ce niveau-là, pour importer ces biens-là, nous avons besoin de dollars. Et pour avoir les dollars, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Ce qui se demande plus coûte cher. Et pour combler l'importation, on recourt au dollar. Comme on recourt au dollar, le dollar devient la monnaie la plus demandée et ce qui fait à ce que son prix augmente automatiquement sur le marché. Il faut noter ici alors que ces deux notions, c'est-à-dire la notion du taux d'échange et l'importation, sont deux notions qui sont liées. À ce niveau-là, je crois que c'est à terme simple la faiblesse de la production qui fait à ce que nous puissions avoir ces problèmes de taux d'échange qui augmentent le plus souvent.
Avec cette fluctuation, les prix des denrées alimentaires et même d'autres biens ont pris l'ascenseur. Alors que les salaires restent au même niveau, le panier de la ménagère est de plus en plus vide à cause de l'inflation galopante. Un poulet qui coûtait par exemple 20 000 francs congolais revient aujourd'hui à 28 000, voire 30 000 francs congolais. Selon vous, que peut faire le gouvernement pour lutter contre cette inflation, mais aussi pour stabiliser le franc congolais par rapport au dollar américain?
Économiquement parlant, les salaires ont une structure fixe sur le long terme. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous réveiller, aujourd'hui on change les salaires dans les entreprises, demain, à court terme, le salaire est fixe, il ne varie qu'à long terme. Alors que de l'autre côté, le prix, vous pouvez vous réveiller aujourd'hui avec un prix quelconque, et demain ça augmente, et après demain ça augmente. C'est-à-dire, pendant une semaine, le prix peut varier 3 fois. C'est pour dire que il y a déjà ces problèmes-là. Alors, pour stabiliser ça, déjà d'abord, laissez-moi revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, avec le gouvernement, nous assistons à une augmentation des dépenses sociales. Par-ci, par-là, vous voyez, les enseignants sont mécanisés, de nouvelles unités sont mécanisées, ils touchent des salaires par-ci, par-là, ce qui est pratiquement une bonne chose. Mais, au même moment, cette augmentation conduit à ce que la demande puisse augmenter. Parce que quand vous avez votre salaire, la première des choses, vous songez à combler le besoin que vous n'étiez pas à mesure de combler quand vous avez moins de revenus que ça. Ce qui est pratiquement une bonne chose. Mais alors, ça conduit à l'inflation, c'est-à-dire à cette hausse des prix. Beaucoup déjà viennent demander le produit, le même produits ou certains produits sur le marché, ceux qui sont des offreurs se disent voilà, c'est une opportunité. Comme il y a beaucoup qui viennent au même moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut augmenter les prix. Mais alors, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire à lieu et place de ça? Ce n'est pas une mauvaise chose ce qu'ils font, mais je crois que nous sommes dans une inflation par la consommation. C'est-à-dire le fait que la consommation augmente, nous assistons à l'inflation. On devrait plutôt peut-être assister, ce qui serait une bonne chose, ce serait avoir l'inflation par l'investissement. C'est-à-dire, on affecte de fonds importants dans les activités entrepreneuriales, dans le financement des entreprises ou dans le financement de programmes d'entrepreneuriat. Bien sûr, au premier lieu, à court terme, cela va conduire à l'inflation. Mais dans le long terme, cela fera à ce que cette inflation-là sera absorbée par la production qui serait en train d'augmenter au fur et à mesure que les l'État est en train d'évoluer. C'est vrai qu'au départ, ça va conduire à l'inflation, mais à long terme, ça va absorber l'inflation et créer, combler alors ces gaps de faible production que nous avons au niveau national. Mais jusqu'ici, on est encore dans cette problématique-là. On paye les salaires des agents, ce qui contribue pas à améliorer notre économie nationale, mais au contraire, nous augmentons la demande pour laquelle ce sont les productions des pays étrangers qui produisent ces biens-là, qu'on peut alors ramener à partir de l'importation. Cela voudrait dire que nous renforçons, nous améliorons l'économie de ces pays. Nous payons les salaires des personnels qui ont travaillé dans ces entreprises-là. Nous payons même les impôts et les taxes, ainsi de suite. Notre pays, nous restons dans une économie qui capote, qui a du mal à marcher.
Papi Angoézi, merci.
Nous vous remercions beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette interview.
Et c'est la fin de cette édition de Journal sur Radio Okapi. Amis auditeurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi.